Je présente maintenant Madame Isorch. Elle est née en 1951. Elle a la particularité d'être à la fois juriste, professeure de droit à l'Université de Montpellier, et mathématicienne. J'indique en quelques mots son parcours. Elle a été professeure de mathématiques d'abord. Ensuite, elle a fait une maîtrise de sciences, pardon, et un DEA de didactique des mathématiques. Elle est devenue ensuite professeure de mathématiques et animatrice à l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques. Puis, à partir de 1984, elle est devenue enseignante en droit à l'Université d'Aix-Marseille. En 1989, elle a passé sa thèse doctorat en droit, mention très honorable. Et en juin 1991, elle est devenue agrégée de droit privé et sciences criminelles. Elle a été donc enseignante en droit à Aix-Marseille, 84-90, maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille, à partir de 90, 91 à 94, professeure à l'Université de Perpignan et chargée de cours à l'Université de Montpellier 1, et depuis septembre 94, elle est professeure de droit à l'Université de Montpellier. Elle est spécialiste des questions de méthodologie et de logique dans le domaine du droit, et ses travaux portent sur la nature du raisonnement juridique et sur le rôle des outils mathématiques pour l'étude du droit. Elle a publié de nombreux articles dans des revues nationales et internationales spécialisées et elle est l'auteur d'un ouvrage paru dans la collection Thémis au PUF récemment, puisque c'est en 2001, un livre qui s'appelle « Le raisonnement juridique ». Donc je lui laisse la parole pour une cinquantaine de minutes, comme nous le faisons d'habitude, et ensuite elle répondra à vos questions. Merci.
Madame, Monsieur, je suis ravie, honorée et très impressionnée d'avoir à parler devant vous, devant un public qui me fait l'honneur de venir écouter, même pendant les vacances, des conférences sur l'égalité et le droit. Le principe d'égalité a été fixé, on le sait, par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et le début de cet article est bien connu. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce qu'on oublie souvent, c'est la suite. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Les distinctions sont quand même prévues. De cette égalité des individus, la Déclaration tire l'égalité devant la loi comme devant la justice. L'article 6 prévoit que la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Elle prévoit également l'égalité devant l'impôt. Une contribution commune est indispensable, elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. Enfin, la Déclaration prévoit dans son article 13, non, pas 13, peu importe, que si l'article, peu importe, l'égale admissibilité aux emplois publics, tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et leurs talents. Depuis, l'égalité a gagné de nombreux domaines, notamment le droit administratif, puisque la responsabilité de la puissance publique peut être engagée en cas de rupture d'égalité devant les charges publiques. Le principe d'égalité est donc bien connu, mais la notion même qui est sous-tendue par ce principe l'est peut-être un peu moins, parce que le mot « égalité » n'a peut-être pas tout à fait le même sens qu'en 1789. Mais quelle que soit l'époque à laquelle on se trouve, il y a des traits constants qui, pour être simple, gagne à être explicité. Et pour cela, un bref détour par la notion toute simple d'égalité en mathématiques m'a paru indispensable. Ce n'est pas le plaisir de faire des mathématiques, simplement l'intérêt de cette démarche est de permettre de saisir la notion à travers la relation qui s'établit entre deux domaines a priori différents, au sein desquels la notion étudiée joue un rôle et présente des traits comparables. Et c'est de cette relation qu'on va extraire l'essentiel. En mathématiques, l'égalité est définie comme une relation entre des objets très simples, par exemple des nombres ou des figures géométriques. Pour ce qui est des nombres, elle est particulièrement pauvre. Deux nombres sont égaux s'ils sont strictement identiques, même si les écritures qui les désignent sont différentes. D'ailleurs, on ne devrait pas parler de deux nombres, mais d'un seul, puisqu'ils sont égaux. De la même manière, en géométrie, puisqu'un rectangle est défini entièrement par la longueur de ses côtés, on le sait depuis qu'on est tout petit, on pourrait très bien caractériser un rectangle R par le couple de sa longueur et de sa largeur, A pour la longueur par exemple et B pour la largeur. Et on dira que deux rectangles sont égaux, R et R' sont égaux, si A égale A', les largeurs sont égales, et B égale B', les longueurs sont égales. On pourrait faire le même genre d'égalité pour des triangles, le couple AB devenant un triplet de nombres, les longueurs des côtés des triangles, mais dans tous les cas, l'égalité se réduit à une stricte identité numérique, composante par composante, et ce monde, malheureusement, ne correspond évidemment pas au monde des hommes. Malheureusement pas, c'est à voir. En tout cas, il sert de modèle. Il est pauvre, on pourrait peut-être l'enrichir un petit peu en introduisant, par exemple, une quatrième composante. Pour les triangles, on pourrait ajouter la couleur. Et on aurait, au lieu de trois composantes seulement, quatre, A, B, C, D, la quatrième étant la couleur, et on définirait l'égalité de deux triangles comme une stricte identité à la fois des côtés et de la couleur. Stricte identité de tous les attributs caractéristiques. Il est bien évident que cela ne saurait correspondre à l'égalité juridique. Et ceci pour de multiples raisons. La première, c'est qu'il n'y saurait être question d'identité, mais au mieux de suffisante proximité entre les individus. Parce que l'égalité juridique ne concerne pas des objets, mais des sujets, des personnes physiques la plupart du temps. Ensuite, on ne saurait définir tous les attributs qui caractérisent une personne. On va décider qu'il convient de reconnaître à toutes les personnes un nombre minimal d'attributs, de caractéristiques juridiques qui vont à la fois les rapprocher les unes des autres, mais aussi les distinguer, les séparer. Il paraît, d'après un article que j'ai lu dans l'Express récemment, que même les babouins sont capables de distinguer entre les notions d'identique et de différent. Le législateur devrait donc en être capable. Parmi ces attributs, on va donc en retenir quelques-uns. Quelques-uns que l'on va juger pertinents à chaque fois que l'on va confectionner une règle. Mais à chaque fois que l'on va exercer un choix juridique, nous dirons législatif pour simplifier, il va falloir décider quels sont les éléments selon lesquels les personnes doivent être considérées comme semblables, parce que ce sont des éléments essentiels, et quels sont les éléments que l'on pourra négliger ou sur lesquels on pourra opérer. Par conséquent, quand bien même il serait possible de définir tous les attributs d'un sujet de droit, une personne, il ne s'agit nullement de dire que toutes les personnes seront semblables selon tous ces attributs, mais que selon certains attributs, elles doivent être considérées comme telles par le droit, elles doivent être traitées de la même manière. Pourquoi ? Parce que selon le droit, une personne en vaut une autre. Mais c'est un regard de la loi qui est sélectif, puisqu'il ne retient que certains critères. On ne va pas dire que les personnes sont semblables, mais qu'elles doivent être considérées comme telles. C'est donc aussi un discours normatif. Un discours normatif, on a pu dire que le droit est un autre monde, ce qui signifie que le monde réel, pourrait-on dire, vu à travers le filtre du juriste, ne correspond pas à l'état de nature. C'est un monde construit en fonction d'une volonté, une volonté politique. L'égalité juridique n'est donc pas l'égalité mathématique, ce serait trop simple. C'est une notion à la fois moins exigeante, plus lâche, plus large, mais aussi plus complexe. C'est une simple proximité, mais qui repose sur certains attributs seulement, certains attributs des sujets qu'elle concerne, et qui, parce qu'elle est orientée par une volonté politique, est nécessairement sélective, tant du point de vue des individus qu'elle prend en compte, que des caractères de ces individus qu'elle va retenir. Avant d'aller plus loin et pour dissiper toute confusion possible entre l'égalité mathématique et l'égalité juridique, je voudrais éclairer avec vous un phénomène qui est susceptible d'expliquer pourquoi il existe une idée fort répandue consistant à penser que le droit tendrait de nos jours à plus d'égalité. Il est vrai qu'on parle beaucoup ces temps-ci, surtout en cette période d'élection, de lutte contre les discriminations, de l'égalité entre les hommes et les femmes, ce qui peut donner l'impression que, une fois qu'on a acquis l'égalité dans un domaine, par une sorte de phénomène de contagion, on appellerait à toujours plus d'égalité et que ça se répandrait aussi dans d'autres domaines. Pour chasser cette illusion, je vais utiliser un exemple purement imaginaire qui permettra d'illustrer ce qu'on appelle l'argument de transitivité, argument qui imite une propriété mathématique, pardonnez-moi, argument qui joue ici un rôle non négligeable. Et dans cet exemple purement imaginaire, je tiens à prendre une précaution, toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé serait purement fortuite. Vous comprendrez pourquoi une fois que vous aurez vu mon exemple. La propriété de transitivité, au sens mathématique, est une propriété qui opère sur des objets et qui est très simple. Tout le monde sait bien que si le nombre A est égal au nombre B, lequel est égal au nombre C, alors le nombre A est égal au nombre C. On observe cette propriété aussi pour le parallélisme des droites. La droite A est en parallèle à la droite B, laquelle est parallèle à la droite C. Les droites A et C sont parallèles. Transposé au discours juridique, mais cette fois-ci comme simple argument, cela donnerait la chose suivante. Puisque A et B sont traités de la même manière, d'une part, et que B et C sont égaux devant la loi, d'autre part, il n'y a aucune raison que A et C soient traités différemment. Et donc, avec cet argument, l'égalité juridique serait contagieuse et s'étendrait, par exemple, à toute la population d'un pays, voire d'un groupe d'États, voire au monde entier. Or, cet argument est trompeur. Supposons, par exemple, et vous comprendrez ma précaution, trois candidats à une élection, A, B et C. Un institut de sondage pose à une personne la question suivante. Si vous deviez choisir entre A et B, qui choisiriez-vous ? La personne répond « Je suis indécise ». On lui demande ensuite, si le deuxième tour devait se jouer entre B et C, qui choisiriez-vous ? Elle répond aussi, je ne sais pas. Eh bien, de ces deux réponses indécises, on ne peut pas déduire que la personne interrogée ne saurait pas se décider entre A et C, et là, l'institut de sondage a manqué à la plus élémentaire des précautions méthodologiques. On pourrait, par exemple, imaginer que l'indécision entre A et B résulte du fait que A, certes, est jeune, mais il appartient à l'autre parti que celui pour lequel vote habituellement le sujet interrogé, alors que B, lui, est certes un peu plus âgé, mais il appartient au parti préféré, et que les deux, étant aussi peu expérimentés l'un que l'autre, ils se valent parce que ces qualités se compensent. C'est ce qui est illustré par la croix qui est en bleu sur le schéma numéro 1. À l'inverse, entre B et C, tous les deux sont également âgés, mais si B appartient au parti préféré de la personne interrogée, il est peu expérimenté, alors que C, lui, n'appartient pas au bon parti, mais il est très expérimenté. Et ses qualités se compenseraient aussi. On voit bien sur ce tableau que les raisons qui font que la personne interrogée est indécise entre A et B, d'une part, et entre B et C, de l'autre, ne sont pas les mêmes. A et B sont égaux d'un certain point de vue. Un certain point de vue qui est relatif aux personnes peu expérimentées, puisque c'est là leur trait commun. B et C sont égaux aussi, mais d'un autre point de vue. Un point de vue qui n'est relatif qu'aux personnes plus âgées, puisque c'est là leur trait commun. Et les raisons de l'indécision ne sont pas les mêmes quand il s'agit de choisir entre A et B que quand il s'agit de choisir entre B et C. Par conséquent, si on prenait un deuxième tour entre A et C, rien ne permet de prévoir ce que déciderait la personne interrogée, puisque les deux candidats appartiennent à l'autre parti que celui pour lequel on vote habituellement, et on ne sait pas relativement à ces gens-là si la jeunesse l'emporterait sur l'expérience ou si ses qualités se compenseraient. J'espère, avec cet exemple, vous avoir fait comprendre que l'égalité juridique, pour en revenir à la réalité, l'égalité juridique est une égalité fondée sur une raison, et que cette raison est susceptible de changer d'une règle à l'autre. Il n'existe donc pas de principe général d'égalité. Principe général qui serait valable quels que soient les attributs des sujets, quelle que soit la règle considérée. Il est donc trompeur de parler d'égalité devant la loi. Il y a des lois, et à chaque loi correspond une raison différente, une certaine conception de l'égalité, avec certains attributs qui vont changer d'une loi sur l'autre. Attributs qui, d'ailleurs, jouent un rôle variable. Prenons l'âge. L'âge peut nous accorder un avantage, le droit de vote, nous priver d'un autre avantage, l'excuse atténuante de minorité en droit pénal, ou être totalement neutre parce que le droit ne prend pas en compte cette composante. Et pourtant, si on parle des inégalités, on parle toujours de l'égalité au singulier. C'est assez curieux, alors que à l'époque des révolutionnaires, on parlait de la liberté et on parle des libertés actuellement. Pourquoi alors parle-t-on toujours de l'égalité au singulier ? Eh bien parce que l'égalité juridique présente des traits constants que je voudrais essayer de mettre en évidence, d'abord en posant quelques notions générales qui vont nous permettre de considérer ensuite de plus près le fonctionnement du principe d'égalité en distinguant deux cas totalement différents, selon que le législateur est ou n'est pas la seule personne à intervenir et à pouvoir modifier l'égalité qui a été décidée. D'abord, voyons dans un premier temps les diverses conceptions de l'égalité juridique. Pour approcher l'égalité et le droit, on pourrait essayer d'aborder plus précisément ce que n'est pas l'égalité et ce qu'elle pourrait être. L'égalité n'est pas l'identité. Même lorsqu'on parle d'égalité en mathématiques, on peut très bien adopter un regard sélectif à partir du moment où les attributs de l'objet que l'on considère sont en nombre supérieur à 1. Pour les nombres, on n'a pas le choix. On va dire que deux nombres sont égaux s'ils sont identiques et il n'y a pas d'autre solution. Mais si on reprend nos triangles colorés, l'exemple des triangles colorés de tout à l'heure, on pourrait très bien décider de neutraliser complètement la couleur et de ne s'attacher qu'à la composante géométrique. Et dire que deux triangles sont égaux à partir du moment où leurs dimensions sont égales, indépendamment de leur couleur. On peut donc trier des critères, n'en retenir que certains et en abstraire d'autres. Et on voit bien dans cet exemple que cette égalité a été non pas constatée, mais construite par un acte de volonté de l'observateur des triangles, acte de volonté qui est évidemment aussi le fait du législateur. Il va décider que des sujets sont égaux, mais d'un point de vue seulement. En droit, il ne saurait être question d'identité. Ce serait nier complètement l'individualité des sujets que de faire comme si tous étaient identiques, fût-ce au prix d'une draconienne sélection des critères. Or, le droit reconnaît l'individu. Chaque sujet se distingue d'un autre par un certain nombre de caractères, un certain nombre d'attributs. Il y en a qui sont totalement indifférents. La couleur des yeux, votre groupe sanguin, le droit s'en moque. Ce sont des critères qui ne sont pas juridiques. En revanche, il y a des critères qui sont retenus par le droit, parce que le droit va retenir certains de ces critères, il va poser un filtre sur la réalité, mais un filtre qui n'abolit pas totalement les individualités. Certains critères sont tirés de la nature, le sexe, l'âge de l'individu, par exemple, et ils vont jouer un rôle en droit. D'autres sont complètement artificiels, ils ont été construits par la règle juridique, le domicile, la nationalité, mais tous vont jouer un rôle dans la règle. Et tous vont permettre d'individualiser séparément chaque personne qui est définie en droit civil par ce qu'on appelle son état. Son état civil, expression bien connue, son état, c'est une liste de critères, son âge, sa nationalité, son sexe, son statut matrimonial, le fait qu'elle soit capable ou non de faire des actes juridiques, sa filiation. Et à cet égard, chaque individu est bien déterminé, isolé, caractérisé par le droit. Donc, il n'y a pas d'uniformisation des personnes, même si on rejette en dehors du droit tous les critères non juridiques tels que la couleur des yeux, les personnes ont bien des caractères différents les uns des autres, des caractères juridiques. Alors que signifie notre expression « égalité en droit » ? Eh bien, on va voir ce que pourrait être l'égalité. Égalité devant la loi, égalité dans la loi ou égalité par la loi. Si on admet après filtrage, selon les seuls critères juridiques, que des individus puissent être différents les uns des autres, que signifie l'expression « les hommes sont égaux en droit » ? Les hommes, ça signifie bien entendu tous les hommes. Tous les hommes, ce n'est pas évident. Tous les humains, tous les hommes, quels hommes ? On verra un peu plus loin que le quantificateur « tous » est largement trompeur. Pour l'instant, nous écartons cette idée et nous attachons simplement à l'expression « en droit ». Que signifie « les hommes sont égaux en droit » ? Eh bien, ici, il y a deux conceptions possibles, l'égalité-neutralité et l'égalité-action ou égalisation. Pour comprendre l'opposition, une nouvelle comparaison mathématique extrêmement simple m'a paru opportune. La règle juridique peut en effet être comparée à une transformation qui opère sur des objets du monde naturel et qui en forme des images, de la même manière qu'une transformation numérique transforme des nombres. L'exemple, vous allez le voir, est très simple, je tiens à vous rassurer. On pourrait par exemple considérer une transformation que je vais appeler la fonction F1 qui transforme tout nombre en son image. F1 de x serait le triple de x. Cette opération F1 est illustrée par la droite qui est en bleu sur le schéma. F1 de x est le triple de x. Ici, tout nombre est concerné. On peut multiplier par 3 n'importe quel nombre. Et on peut considérer que puisque tous les nombres sont concernés par cette règle, ils subissent tous un traitement égal par cette transformation. Ils vont tous être multipliés par 3. Et bien que différents dans leurs individualités, les nombres x et y sont égaux devant la transformation F1. Chacun va être soumis au même traitement. L'égalité est donc ici à rechercher dans la relation qui unit X à son image et Y à la sienne. Même si les objets de départ, qu'on appelle les antécédents, sont différents, même si les objets d'arrivée, qu'on appelle les images, sont différentes, la règle qui les transforme est constante, multipliée par 3. De la même manière, on pourrait imaginer une autre transformation, F2, qui diviserait par 2. Division par 2 qui est illustrée par la droite qui est en rouge. En quoi ce choix entre les deux opérations est-il intéressant du point de vue juridique? Eh bien, on pourrait comparer ces deux opérations à des lois entre lesquelles le législateur aurait à choisir. Dans les deux cas, que l'on choisisse la loi F1 ou la loi F2, le législateur va appliquer la même règle à tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'égalité devant la loi. Égalité devant la loi qui correspond à ce qu'Aristote appelait la justice distributive. La justice, écrivait-il, c'est l'égalité, mais seulement pour des égaux. Et l'inégalité est juste, mais seulement pour des inégaux. Toujours selon Aristote, la justice est relative à des personnes et une distribution doit se faire en gardant la même proportion au sujet des personnes et pour les choses. Proportion. C'est bien ce que je dis. Multiplié par 3 ou divisé par 2, je conserve la même proportion. Déjà, Platon considérait que parmi les conceptions que l'on peut avoir de la justice, de l'égalité, la vraie et la plus excellente, écrivait-il, attribue davantage au plus grand et moins au plus petit, donnant à chacun en proportion de sa nature. Dans cette conception distributive, par opposition à la justice corrective, il suffirait donc qu'il existe une simple proportionnalité pour que l'égalité soit respectée sans nullement modifier la hiérarchie entre le grand et le petit. Pourtant, si on y réfléchit, même une règle qui se veut neutre, donc non correctrice, participe à une modification de l'échelle des inégalités d'origine. Reprenons l'exemple mathématique. Même si les deux lois, la rouge et la bleue, transforment de manière égale les x et les y et respectent le principe de proportionnalité, le choix entre F1 et F2 pour le législateur n'est pas du tout innocent. On comprend bien que la loi F1 amplifie les écarts. Là où, par exemple, entre le nombre 2 et le nombre 7, l'écart n'était que de 5, dans l'ensemble des images qu'on lit sur l'axe vertical, il devient de 15, il est multiplié par 3. À l'inverse, la loi F2, elle, réduit les écarts. Là où l'écart était de 5, il n'est plus, dans l'ensemble des images sur l'axe vertical, que de 2,5. Chaque nombre étant divisé par 2, l'écart lui aussi est divisé par 2. Ce ne sont que des images. Des images destinées à faire comprendre que si dans les deux cas, les sujets sont traités de la même manière par la loi et sont donc égaux devant la loi, la règle peut contribuer à l'égalisation ou au contraire accentuer les inégalités. Et il y a là un choix politique à exercer. Alors même qu'elle est la même pour tous, la loi n'est pas neutre. La vraie neutralité, qu'est-ce que ce serait? Ça correspondrait à une fonction qui ne multiplierait pas du tout, qu'il multiplierait x par 1. Mais alors, ce serait une loi parfaitement neutre et donc parfaitement inutile. Si je multiplie x par 1, comme sur ce schéma, application qui est représentée par la droite en bleu, on ne changerait pas l'état naturel. Or, la loi veut marquer son empreinte sur le monde, sinon elle ne sert à rien. Il faudrait, si on voulait avoir une loi neutre tout en respectant les écarts d'origine entre les nombres ici et leurs images, mais qui agissent quand même un petit peu sur le monde réel, il faudrait une fonction du genre de celle qui est représentée par la droite verte, qui multiplierait x par 1, mais ajouterait à x quelque chose, à tout le monde la même chose. On respecterait les écarts, mais quand même on modifierait le monde naturel. À l'inverse, on pourrait vouloir procéder à une égalisation complète des individus. Et à ce moment-là, il faudrait retenir une transformation du genre f de x égale 0 que multiplie x plus 4. 0 que multiplie x plus 4, ça annihile toute différence entre les x et les y. L'individualité de x et des y est complètement perdue. On ajoute à tout le monde 4, mais tout le monde est complètement anéanti dans cette multiplication par 0. Il paraît évident que ce choix politique pour la loi est totalement inconcevable. Une loi qui neutraliserait totalement les différences entre les individus serait inacceptable. Elle aboutirait à une contrainte extrême, stérilisante, niant les caractéristiques de chacun. Or, la loi est faite pour l'homme, et non l'inverse. L'homme, c'est le genre humain, mais aussi l'individu. Il faut donc trouver un équilibre entre, d'une part, la neutralisation de certaines différences afin d'assurer un minimum d'égalité, un minimum de cohésion du corps social, mais aussi le respect de l'individualité, la prise en compte donc de certains critères, parce que l'homme est d'abord et avant tout un individu. Et dans tous les cas, il va donc falloir formuler des choix, exercer une volonté politique. Lorsque cette volonté politique interdit de prendre en compte certains critères, donc lorsqu'elle prohibe certaines discriminations, elle traduit ce qu'on appelle le principe d'égalité dans la loi. Égalité toute relative, puisqu'on ne va gommer que certaines différences. On ne va jamais les gommer toutes. Lorsqu'elle décide, à côté de cela, que tous les individus doivent être traités de la même manière, on parlera d'égalité devant la loi. Égalité qui est elle-même relative, puisque le législateur va décider d'augmenter, de réduire les écarts, il va s'autoriser certaines distinctions, il va gérer l'égalité par catégorie et non pas de façon universelle. Ces exemples numériques, s'ils sont parlants, ce que j'espère, sont donc largement insuffisants pour rendre compte de la complexité du problème, parce qu'ils ne vont pas permettre de révéler autre chose que la stratégie législative à l'égard d'une composante du sujet, sa valeur numérique. Et l'égalité, si on y réfléchit bien, contient l'idée de valeur. Mais la valeur, est-ce que c'est applicable aux hommes ? Il faudrait s'abstraire d'un exemple purement numérique et considérer autre chose que la valeur, la forme ou la couleur, par exemple. Imaginons l'exemple des triangles colorés pour s'abstraire de cette idée de valeur. Des exemples de triangles dont les formes, les tailles, les couleurs seraient différentes. Imaginons que nous soyons un législateur qui transformerait les triangles que l'on voit à gauche en des triangles que l'on voit à droite. Il pourrait décider, par exemple, de tous les réduire, indépendamment de la taille et de la couleur, ce qui est représenté par la flèche verte. Il pourrait décider de réduire seulement les triangles bleus, ce qui est représenté par la flèche violette. On réduit seulement les bleus et on s'interdit de distinguer entre les verts et les rouges, par exemple. On pourrait multiplier les exemples. Le législateur, il faut imaginer que mes triangles sont des personnes, le législateur décidant, par exemple, de transformer la couleur de tous les triangles ayant une forme donnée. Ici, ce sont les triangles rectangles. Ils vont tous devenir noirs. Les autres ne sont pas touchés. Il pourrait même décider de transformer la couleur de tous les triangles. Le législateur, on le devine, exerce toute une série de choix relatifs à la question de l'égalité. Choix des critères qui vont intervenir ou au contraire qu'on négligera, choix de la neutralité totale ou au contraire de l'égalisation, choix de la réduction ou de l'augmentation des écarts, choix d'une population concernée par la loi, choix de sous-groupes à l'intérieur de la population. On devine que le problème est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. La question de l'égalité se complique. Elle se complique d'autant que le législateur n'est pas le seul à intervenir. Parmi les acteurs qui interviennent dans le droit, il y a le juge. Le juge qui est en principe totalement asservi, il ne fait que répéter ce qu'a dit le législateur. Si on se limite à ces seuls acteurs, on peut considérer qu'il va y avoir ici un discours qui va se suffire à lui-même, qui sera appliqué de manière totalement dépendante par le juge. Mais le discours législatif se heurte aussi à certains acteurs qui ont un pouvoir de décision et auxquels le législateur ne peut pas toujours imposer sa volonté, sa vision de l'égalité. Et donc, nous distinguerons, à partir de maintenant, entre deux discours, celui qui est relatif à la généralité des justiciables et celui qui est formulé en présence de personnes qui ont un pouvoir de décision. Le discours destiné aux justiciables est le suivant. La loi est la même pour tous. Pour le législateur, c'est lui qui dit cela, il peut se reconnaître divers degrés de liberté. Et pour mieux percevoir quelles sont les différentes possibilités offertes au législateur, nous allons approfondir un petit peu le sens des expressions « la même » d'une part et « pour tous » d'autre part. La même. On vient de voir, grâce à l'exemple de la proportionnalité, que même si la loi est la même pour tous au sens où elle est générale et abstraite, elle va conduire inévitablement à des différences de traitement, puisqu'elle est une loi et que donc elle veut transformer. Et si elle transforme, elle va aussi, par exemple, transformer les écarts. Elle va donc aboutir à une différence de traitement. Elle peut même les encourager, ces écarts. Par exemple, la loi civile qui veut que le premier créancier à inscrire une hypothèque sur votre immeuble va être le premier servi en cas de vente suite à une saisie de cet immeuble. On encourage le créancier le plus rapide, le moins indulgent. Il se peut aussi que, à l'inverse, le législateur s'abstienne d'établir une quelconque discrimination entre les personnes et encourage de ce fait le maintien de certaines différences. Pensons à l'exemple de la TVA. Cet impôt dont le taux est uniforme, quelle que soit la personne qu'il va le payer. On peut considérer que cet impôt est juste puisqu'il est proportionnel à la dépense, certes, mais on peut dire également qu'il est injuste puisqu'il frappe inégalement les personnes, toute proportion gardée, qui ont beaucoup de revenus et celles qui en ont beaucoup moins. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le taux n'est pas le même s'agissant des produits de première nécessité que tout le monde est obligé d'acheter et les produits de luxe. D'ailleurs, on pourrait considérer que la loi est la même et par conséquent l'égalité est respectée, même dans le cas où le législateur distingue des catégories à l'intérieur desquelles la loi serait totalement constante, même si entre les catégories elle est différente. Pensons par exemple à l'impôt sur le revenu. Je parle de choses qui fâchent. L'impôt sur le revenu par tranche. Les règles de calcul sont établies selon des catégories, des tranches, et à l'intérieur de ces tranches, les taux sont différents, afin de tasser les différences, de redistribuer les richesses, de réduire les différences d'origine entre les revenus. Toutes les personnes concernées sont soumises à la même règle, la loi fiscale est la même pour tout le monde. On peut donc considérer qu'elles sont égales devant l'impôt. Toutes les personnes du même catégorie sont soumises au même taux. On peut donc considérer que dans une catégorie, la loi est la même pour tous. Il n'en reste pas moins qu'entre catégories, globalement, la loi n'est pas la même. Alors on dira que cette inégalité de traitement a justement pour but de rétablir l'égalité en réduisant les différences de revenus. C'est vrai, mais une telle égalité, une telle égalisation par l'inégalité ne sera acceptable que dans la mesure où elle ménage suffisamment la liberté et le dynamisme des acteurs. Et le législateur va donc soigneusement peser la pression fiscale dans les tranches et aussi les bornes entre lesquelles il va établir les tranches, ce qui va le conduire inévitablement à poser des critères de distinction entre sous-groupes au sein de la population globale. Alors, si la loi est la même pour tous, même dans ce sens-là, que signifie « pour tous » ? Quand on proclame que la loi est la même pour tous, on ne dit évidemment pas qu'il y a une seule loi, il y a des lois. Cependant, même appliquée à ces lois considérées une à une, ou même à chacune des règles composant la loi, l'expression « la loi est la même » pourrait laisser croire qu'il n'y a qu'une seule et même règle applicable à toute la population. D'ailleurs, l'expression « une seule règle » est elle-même ambiguë. La loi sur l'impôt, quelle est la seule règle ? Est-ce que c'est la règle qui contient toutes les petites règles avec des taux différents, ou est-ce que c'est une juxtaposition de petites règles qui sont la même pour tous à l'intérieur de chaque catégorie ? Faut-il faire disparaître toutes les catégories pour aboutir à l'égalité ? Les réponses sont très nuancées. Et l'égalité peut être réalisée aussi bien par l'établissement de distinctions que par la suppression de ces distinctions. L'établissement de distinctions. Le législateur ne se pose même pas la question de savoir s'il doit, au nom de l'égalité, s'interdire de distinguer entre catégories. Il le fait. Il le fait dès lors qu'à l'intérieur des catégories, le traitement est le même. Ce qui pourrait d'ailleurs l'autoriser, en multipliant des catégories de plus en plus fines, à appliquer des traitements extrêmement diversifiés sous prétexte d'égalité. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on lui oppose souvent l'argument d'égalité pour freiner ses velléités de distinction. C'est ce qu'ont fait les parlementaires récemment à propos de la loi de modernisation sociale du 20 décembre 2001. Le Conseil constitutionnel a été saisi par des sénateurs qui reprochaient à la loi de traiter différemment des catégories de travailleurs. Le Conseil a balayé l'argument. Le 12 janvier 2002, en des termes particulièrement nets, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité, pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec la loi qu'il établit. Il a donc le droit de traiter différemment des situations différentes. Et il peut même déroger à l'égalité pour des raisons d'intérêt général. Cette formulation allait trouver à s'appliquer ici à la disposition critiquée. Il s'agissait d'une disposition qui établissait une inégalité devant la retraite entre les salariés du secteur privé et les salariés du secteur public, abondamment commentée en ces temps électoraux. Eh bien, le Conseil constitutionnel répond au sénateur que les salariés liés par un contrat de travail de droit privé, d'une part, et les agents des collectivités publiques, d'autre part, relèvent de régimes juridiques différents au regard de la législation sur les retraites, si bien que l'article 48 ne porte pas atteinte au principe d'égalité. Cette formulation doit être rapprochée d'un autre extrait de la décision qui concernait l'augmentation de l'indemnité de licenciement pour cause économique. Là aussi, les sénateurs prétendaient que cela introduisait une distorsion de traitement entre les différentes sortes de licenciements. Pourquoi faut-il que les licenciements économiques soient mieux payés, pourrait-on dire, qu'un licenciement pour une autre cause ? La réponse est très claire. Considérant, dit le Conseil, que les salariés licenciés pour motifs économiques sont, au regard de l'objectif de la loi, qui est de prévenir les licenciements économiques en renchérissant le coût, ils sont dans une situation différente de celle des salariés licenciés pour un autre motif et que donc l'article contesté ne méconnaît pas le principe d'égalité. Il ressort de cette décision du Conseil constitutionnel que j'ai choisi pour vous deux idées essentielles. D'abord, que le législateur est libre de considérer que des personnes se trouvent dans des situations différentes et que par conséquent, puisque ces personnes sont dans des situations différentes au regard de l'objectif que poursuit la loi, il est parfaitement légitime de les traiter différemment. Par exemple, la loi du 15 juin 2001, la fameuse loi sur la présomption d'innocence, ne dit rien d'autre que la chose suivante. Les personnes se trouvant dans des conditions semblables, poursuivies pour des mêmes infractions, doivent être jugées selon les mêmes règles. Il n'est évidemment pas question pour le législateur de renoncer à son pouvoir d'agir sur le corps social, surtout en matière pénale, et de dire que tout le monde devrait être jugé avec les mêmes règles, seulement celles qui ont commis les mêmes infractions. Mais il y a plus. Si on observe attentivement le discours du Conseil constitutionnel, la différence de situation justifie que le régime juridique soit différent, on l'a vu. Mais il ajoute que le fait que les personnes relèvent de régimes juridiques différents justifie qu'on leur applique des règles différentes. Alors, on imagine aisément l'effet d'amplification qu'un tel raisonnement peut produire. Ces personnes sont dans des situations différentes, donc je prends des règles différentes. Mais puisqu'elles sont soumises à des règles différentes, ça m'autorise à prendre encore d'autres règles différentes. Effet d'amplification qui peut être considérablement aggravé si le législateur, comme il en a l'habitude actuellement, modifie la règle sans cesse, ce qui d'ailleurs lui était reproché aussi dans cette décision. À l'évidence, pour le Conseil constitutionnel, le principe d'égalité est tout à fait compatible avec des différences de traitement qui pourraient aller en s'aggravant. Mais à l'inverse, le respect du principe d'égalité peut être aussi le fait de la suppression de certaines distinctions. La suppression des distinctions, j'en ai retenu deux. Deux qui sont particulièrement intéressantes et qui sont très récentes également. Il s'agit de la suppression de la distinction entre les filiations et d'une suppression des distinctions entre les hommes et les femmes. Égalité des filiations tout d'abord. Depuis le code de 1804, une évolution considérable s'est produite. Autrefois, on interdisait la recherche de paternité naturelle, par exemple. Et même lorsqu'elle a été admise, on a interdit la reconnaissance, par exemple, la reconnaissance volontaire pour l'enfant issu de l'adultère ou de l'inceste. Il s'agissait de protéger le mariage. Les choses ont évolué. La loi bien connue du 3 janvier 1972 a posé un principe d'égalité entre l'enfant légitime, c'est-à-dire celui dont les parents sont mariés, et l'enfant naturel, l'autre. L'article 334 du Code civil prévoyait que l'enfant naturel a, en général, les mêmes droits que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses pères et mères. De son côté, le droit des successions était marqué, on le sent doute, par des siècles de discrimination entre les enfants, entre les filles et les garçons, entre les aînés et les puinés, entre la famille paternelle et la famille maternelle du défunt. Et l'article 745 du code de 1804 avait déjà posé que les enfants ou leurs descendants succèdent à leur père et mère sans distinction de sexe ni de primogéniture. Le droit d'aînesse disparaissait. Toutefois, une inégalité subsistait, parce que même encore fin 2001, l'article 757 du code civil prévoyait que l'enfant naturel a en général, dans la succession de ses pères et mères, les mêmes droits qu'un enfant légitime. On ne pourra pas manquer de remarquer cette restriction en général qui est la même dans les deux textes, restriction apparemment anodine, mais qui était lourde de sens. Alors même que le législateur avait admis que l'on établisse la filiation adultérine, la loi successorale imposait une restriction à l'enfant adultérin. Cet enfant voyait ses droits divisés par deux à chaque fois qu'il était en concurrence soit avec le conjoint victime de l'adultère, soit avec les enfants issus du mariage bafoué. Et la demi-part dont il était privé allait aux enfants issus du mariage bafoué, ce qui d'ailleurs introduisait une autre inégalité avec d'autres enfants légitimes issus d'un éventuel premier mariage. À l'évidence, la loi successorale refusait l'égalité des filiations. Et cette disparité de traitement avait valu d'ailleurs une condamnation pour l'État belge qui appliquait la même règle que nous dès 1979. En France, l'action d'un enfant adultérin a été portée devant la Cour de cassation en 1996 et elle a été rejetée. La personne revendiquait l'application de la Convention européenne des droits de l'homme et du pacte de New York de 1990 sur les droits des enfants. La Cour de cassation considère que ce n'est pas un problème. Et le demandeur s'est obstiné, il a porté son action devant la Cour européenne des droits de l'homme et la France a été à son tour condamnée dans un retentissant arrêt du 1er février 2002, dont je vais citer quelques extraits. La Cour constate que cette différence de traitement est expressément prévue par l'article 760 du Code civil. Donc elle est légale, elle est prévue par la loi. Ce n'est pas pour autant qu'elle soit légitime. Le juge, ici, et c'est très important de le remarquer, le juge européen va exercer un contrôle sur la législation française. La Cour ajoute en effet qu'il convient de déterminer si la différence de traitement alléguée était justifiée. Il observe qu'il ne peut être exclu que le but invoqué, à savoir la protection de la famille légitime, la famille traditionnelle puisse être considérée comme légitime. Mais, il ajoute aussitôt la chose suivante, reste la question de savoir, pour ce qui est des moyens employés, si l'instauration d'une différence de traitement entre enfants adultérins et enfants légitimes ou naturels, quant à la succession de leur auteur, apparaît proportionnée et adéquate par rapport au but poursuivi. De cette décision, il découle que la différence de traitement n'est pas en soi répréhensible, mais il ne suffit pas qu'elle soit prévue par la loi. Il faut qu'elle soit adaptée et proportionnée à un but légitime poursuivi par le législateur national. Et contrairement à ce que pouvait laisser penser ce que je vous ai dit à propos du Conseil constitutionnel, le législateur n'est pas libre. Il n'est pas libre d'apprécier ses raisons d'intérêt général. Le juge européen exerce un contrôle de légitimité. Il ne suffit pas non plus que la différence de traitement soit en rapport direct avec l'objet de la loi qu'il établit, comme dit le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas vrai. Le juge européen exerce aussi un contrôle de proportionnalité. Et on retrouve ici cette idée fondamentale de proportionnalité, mais sur un tout autre plan. La proportion doit exister non pas entre le sort réservé à l'individu et ses caractéristiques propres, ses mérites, comme disait Aristote. La proportion doit exister entre le but d'intérêt général poursuivi par la loi et les moyens employés par le législateur. À l'évidence, on a changé d'échelle. Le législateur français s'est incliné. La loi du 3 décembre 2001 modifie le Code civil qui dispose désormais « La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder ». Au-delà de cette proclamation, diverses dispositions ont complètement établi l'égalité, notamment par exemple entre les frères sœurs du défunt d'une part et les demi-frères demi-sœurs, alors qu'autrefois il y avait une égalité. Et l'égalisation se manifeste aussi par la suppression de certains mots, la modification de certains mots. Par exemple, là où l'ancien texte disait que les enfants succèdent à leur père et mère sans distinction de sexe ni de primogéniture, encore qu'ils soient issus de différents mariages, le législateur a bien été obligé de dire encore qu'ils soient issus de différentes unions. Toutefois, le verbe est souvent en retard sur la pensée. Si on réfléchit au fait que de 1972 à 2001, alors que l'enfant naturel simple, c'est-à-dire celui qui n'est pas adultérin, était en principe égal à l'enfant légitime, l'article 745 visait encore les différents mariages, ce qui est totalement illogique. Oui, on constate un décalage entre la volonté du législateur et ce qu'il dit. Et la même chose vaut encore de nos jours. Il proclame l'égalité des filiations. Mais alors pourquoi est-ce qu'il parle encore d'enfant légitime, opposé à l'enfant naturel? Si on y réfléchit, légitime s'oppose à illégitime. Et d'ailleurs, on trouve sous la plume des meilleurs auteurs, peut-être dans un souci de provocation, cette expression illégitime, illégitime pour désigner l'enfant adultérin. Pourquoi celui-ci serait-il illégitime? Il est naturel, dit-on, certes, mais cela ne s'oppose évidemment pas à artificiel. C'est un enfant de la nature, lui aussi. Toujours est-il que, quand même, dans le verbe législatif, il n'y a plus que deux catégories. L'enfant, autrefois adultérin, est devenu un enfant naturel comme les autres, ce qui est quand même en soi un progrès. Il n'en reste pas moins qu'il subira encore certaines discriminations qui frappent les enfants naturels, puisque le législateur a oublié, par exemple, de modifier un texte du Code civil, l'article 960, qui autorise une personne qui a fait une donation quand elle n'avait pas d'enfant, qui autorise à revenir sur sa décision s'il lui survient un enfant, parce qu'elle regretterait son geste, oui, mais s'il lui survient un enfant légitime, pauvre enfant naturel, il a encore des progrès à faire. Il a encore des progrès à faire, surtout au niveau symbolique. Parce que tant qu'on continuera à utiliser ce mot légitime, qui en droit a un sens neutre, un sens bien technique, mais qui est reçu par la population, les personnes qui ne sont pas juristes, comme ayant un sens avec une connotation négative, eh bien notre enfant sera toujours dans un état d'inégalité. Cet adjectif qualificatif, comme son nom l'indique, c'est un adjectif, il a été ajouté. Il a été ajouté par la loi qui voulait introduire une différence de traitement. Et c'est un adjectif artificiel. La suppression de l'adjectif qualificatif restaurerait à l'enfant sa propriété caractéristique juridique essentielle dans le problème qui nous occupe, à savoir sa filiation. Si vraiment il y avait égalité des filiations, on devrait dire la loi reconnaît l'égalité des filiations. Il serait simple d'enlever des adjectifs qualificatifs artificiels. Il n'est pas simple de faire abstraction de certains substantifs, surtout lorsque, comme leur nom l'indique, ces substantifs désignent les sens. Ainsi en va-t-il des mots « homme » et « femme ». On ne peut pas éviter de recourir à ces mots-là. Homme et femme sont aussi des distinctions qui ont une incidence dans le droit, de la famille, ce qui est tout à fait normal. On pourrait s'attendre quand même, on pourrait espérer qu'il n'ait aucune incidence dans d'autres domaines, le droit des contrats par exemple, ou tout au moins que s'il joue un rôle, ce ne soit pas pour justifier une inégalité de traitement. Or, on sait très bien qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Et nous abordons une autre suppression d'une distinction, l'égalité des sexes. Entendons-nous bien, il ne s'agit nullement de nier la différence des sexes. Moi, j'y tiens beaucoup et ça serait absurde. Il s'agit simplement de déclarer que les hommes et les femmes doivent être traités identiquement. Et encore, cela mérite-t-il quelques précisions. Supposons par exemple une population réduite à 6 personnes, 3 hommes, A seconde, 3 femmes, B seconde. Dans cet ensemble, on pourrait très bien définir une relation telle que peut épouser, au sens de à la possibilité théorique d'épouser. Il est bien évident que B peut épouser A prime ou A seconde, ce que j'ai fait figurer par des traits bleus, et qu'à l'inverse, A, lui, qui est un homme, ne peut pas épouser A prime et A seconde, puisque ce sont des hommes aussi. Il est clair aussi que A et B ne sont pas traités identiquement dans leur relation à A prime et A seconde. B peut épouser A prime et A seconde, mais A ne le peut pas. Mais on comprend également que le principe d'exclusion est le même pour les deux sexes. A peut épouser B ou B' et B'. B ne peut pas épouser B' ou B', bien entendu. Donc, il n'y a nul inconvénient a priori à introduire une dissymétrie dans les relations individuelles, pourvu que la dissymétrie soit symétriquement répartie. C'est ce qui est figuré sur le petit schéma du haut, le cercle qui est en haut. Ce n'est pas le résultat qui doit être identique pour A et B, c'est la raison de la prohibition du mariage, raison qui est fondée sur l'identité des sexes et qui est indépendante du sexe. La raison est symétriquement répartie. Ce n'est pas le sexe de l'individu qui est pris en compte, mais la relation d'identité entre sexes qui justifie la prohibition au mariage. Si à l'inverse, et je vous prie de considérer le deuxième schéma, on prenait une autre relation peu fréquentée la même école que, et qu'on décide de faire des écoles séparées filles-garçons. Là, ça serait l'inverse. A peut fréquenter la même école que A' et A', mais il ne peut pas fréquenter la même école que B. Le trait est en rouge. B, lui, elle, puisque c'est une fille, peut fréquenter la même école que B' et B'. C'est l'inverse du cas précédent. La raison de la prohibition, cette fois-ci, ce n'est plus l'identité des sexes, c'est la différence des sexes. Mais elle aussi, cette raison de séparation, dans cette histoire où il y aurait une non-mixité obligatoire, la raison, c'est symétriquement répartie entre les sexes. Il n'y a nulle inégalité de ce point de vue, pourvu que les écoles soient les mêmes. On pourrait, en reprenant l'exemple précédent, décider que A, A', A', mais aussi B peuvent s'inscrire dans la même école. C'est le troisième schéma. Et que B' et B' restent dans une autre école. Apparemment, il y a une discrimination ici. Discrimination qui ne tient peut-être pas au sexe. Il se peut très bien que les A ainsi que B aient plus de 12 ans, alors que B' et B' soient à l'âge de la maternelle, et que l'interdiction pour B d'aller dans l'école de B' et B' tienne tout simplement à son âge. Et à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il y ait une discrimination fondée sur le sexe. On ne peut pas dire cette fois-ci que la raison soit symétrique entre les sexes, elle en est totalement indépendante. C'est l'âge de l'enfant. Ces quelques précisions étant posées, et pour en revenir au droit, on remarquera que le législateur, ces dernières années, a multiplié les textes proclamant l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, il est amusant de constater que si pour l'égalité des filiations, il place toujours la filiation légitime en premier, dans les lois récentes, il place toujours les femmes en premier. On ne sait pas si c'est pour essayer de compenser la longue condition d'infériorité juridique des femmes ou par un souci de galanterie, après tout, qui ne serait pas négligeable. Après les grandes réformes du droit de la famille qui ont symétrisé le rôle de la femme et de l'homme en matière d'autorité parentale, 1970-1993, en matière de régimes matrimoniaux, 1965-1985, sont intervenues depuis 3 ans toute une série de lois tendant toutes au même but, qu'on en juge. Loi constitutionnelle en 1999 tendant à l'égalité des hommes et des femmes et des hommes. Loi du 6 juin 2000 favorisant l'accès égal des hommes et des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Loi du 9 mai 2001 égalité professionnelle. Loi du 4 mars 2002 nom de famille, on a supprimé le patronyme. Loi du 4 mars 2002 aussi relative à l'autorité parentale, qui parachève une égalisation largement obtenue depuis 1993. En 1993, il subsistait quand même une petite inégalité ponctuelle au profit de la mère, puisque l'article 374 du Code civil lui donnait l'autorité parentale dans le cas où l'enfant naturel n'avait pas été reconnu au cours de sa première année par ses deux parents. Le Conseil d'État a été saisi, on pense, par des hommes probablement, de cette question, qui a déclaré dans une décision du 30 juin 1999 que ce texte n'était pas incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme, qui est souvent appelée à la rescousse en matière d'égalité. Il n'en reste pas moins que la loi du 4 mars 2000 a symétrisé le rôle de l'homme et de la femme et que, cette fois-ci, les rôles sont exactement répartis. À l'inverse, la loi du même jour concernant le nom, qui a supprimé le patronyme, laisse quand même une petite inégalité, et cette fois-ci au profit du père, je vous laisse savourer, puisque l'article 311-21 du Code civil prévoit qu'en l'absence de déclaration conjointe à l'officier d'état civil, qui mentionnerait le choix du nom de l'enfant, c'est « cet enfant prendra le nom du père ». Il faut être raisonnable. Il est tout à fait raisonnable de s'en tenir à l'ancien système, surtout dans une période transitoire. Après tout, il appartient aux parents d'exercer le choix que leur donne la loi, qui est par ailleurs parfaitement symétrique. On peut donc considérer que globalement, l'égalité homme-femme est, sinon dans les faits, du moins dans le droit, réalisée. Et c'est justement sur ce terrain de l'égalité homme-femme qu'on va pouvoir observer quelque chose d'intéressant, parce qu'il ne suffit pas de croire qu'il serait naïf de croire que le législateur ait dit « on ne fait pas de distinction », que pour autant il n'y en ait pas dans la réalité. En effet, il y a, outre le législateur, d'autres personnes qui vont pouvoir intervenir et modifier les équilibres que le législateur a voulu poser. C'est pourquoi il nous faut aborder maintenant le troisième point, le discours destiné à des acteurs, et ce discours est que la contrainte n'est pas la même pour tous. Le discours sur l'égalité s'adresse aux justiciables, vous et moi. Même lorsque le législateur adresse un discours égalitaire, par exemple entre les filiations, il lui arrive de laisser une certaine liberté aux personnes. Si vous avez deux enfants, un naturel, l'autre légitime, vous pouvez très bien décider d'une inégalité de traitement parce que la loi vous y autorise. Vous pouvez très bien décider de donner 2/3 des biens à l'un et 1/3 seulement à l'autre. Comme il vous plaira d'ailleurs, vous pouvez préférer l'enfant naturel, quitte à ce qu'il soit adultérin, ou l'enfant légitime. Vous êtes libre, dans certaines limites. Vous n'avez pas le droit de dépouiller l'un de vos deux enfants de plus du tiers de votre succession. Mais il arrive que le législateur interdise cette préférence. Et ici, il va falloir distinguer selon qu'il a ou non un pouvoir de contrainte contre la personne à laquelle il va s'adresser. Et il aura ou n'aura pas de pouvoir de contrainte selon que l'acteur est un égal en face de lui ou selon qu'il est un assujetti. Quand il est un égal, il va devoir négocier. Et pour envisager cette hypothèse, nous allons sortir du cadre strictement national dans lequel nous nous sommes enfermés depuis le début. Le législateur se reconnaît le droit de traiter différemment ses nationaux et les étrangers. Mais puisqu'il se reconnaît ce droit, il doit bien s'attendre à ce que le législateur étranger en fasse de même. Par ailleurs, étant souverain, mais uniquement lorsqu'il s'agit de définir les rapports de ses nationaux entre eux ou avec les étrangers, il ne saurait intervenir dans les rapports des étrangers entre eux. Ce n'est pas son problème, ça appartient à la souveraineté du législateur étranger. Et donc, on va observer un phénomène de friction entre des lois, entre des systèmes juridiques. C'est là qu'on observe d'ailleurs que parler d'égalité devant la loi est une expression singulièrement réductrice. Il y a des législateurs. Il est intéressant de se demander, dans ce cas, quelles sont les limites du pouvoir législatif en matière d'égalité lorsqu'il va se heurter à un autre discours législatif. Pour illustrer cela, je vais considérer trois États, A, B, C, dont je vais considérer des ressortissants, donc des personnes, que j'appellerai aussi les A, les B et les C. Le législateur d'un État A, par exemple, peut très bien décider que les A, les siens, seront égaux entre eux, mais qu'un B, un étranger, ne sera pas soumis à la même règle. Il peut aussi décider que les B seraient traités de la même manière que les A. C'est lui qui décide. Il ne peut pas, en tout cas, décider de l'égalité des B entre eux, puisque cela relève du législateur de l'État B. Mais il peut très bien décider que les B seront égaux dans leur rapport avec les A, les individus de l'État A, ou avec l'État A lui-même. Ce faisant, il va établir une certaine forme d'égalité entre les B. Égalité dans la relation qu'ils entretiennent avec les A. Il pourrait aussi décider de privilégier les C et de leur accorder, de ce point de vue, une situation plus favorable que celle qu'il accorde aux B. Il peut alors, dans ce cas, prendre une décision qui fera que tous les B sont égaux entre eux, dans leur rapport avec les A, tous les C sont égaux entre eux, mais que les B et les C ne sont pas égaux dans leur relation avec les A. Et là, les législateurs B et C n'y peuvent strictement rien. En revanche, il ne lui appartient évidemment pas de décider ce que feront les B entre eux, ni les C entre eux, ni les C avec les B. Ce n'est pas son problème. Mais dans le domaine où il a du pouvoir, le législateur A peut évidemment agir et décider de favoriser l'égalité. Par exemple, il peut décider qu'il va aligner le sort des B qui jusqu'ici étaient moins bien traités sur celui des C, qui est plus statut plus favorable. Généralement, ce type de décision n'est pas unilatéral. Il va être négocié entre les États qui vont s'accorder réciproquement des avantages comparables. On trouvera dans un traité entre l'État A et l'État B une clause qu'on appelle clause de la nation la plus favorisée. On aligne sur le sort le plus favorable. On peut même aller plus loin et décider que les relations entre les A et les B seront alignées sur celles des A entre eux. Et on va trouver une clause d'assimilation aux nationaux. Je décide, moi, législateur A, que tous vos B seront alignés sur le sort de mes nationaux. Généralement, ces clauses sont conditionnelles. Je ferai cela à condition que vous fassiez cela, vous aussi. Oui, c'est donnant-donnant. La règle sera symétrique. Seulement, si cette clause est conditionnelle, le législateur A va perdre une partie de son indépendance, puisque sa décision relative au sort des B va dépendre de la décision que le législateur B va prendre relativement aux personnes A. Il se soumet à ce qu'on pourrait appeler une méta-règle qui va dicter comment il faut prendre la règle à l'égard des B, qu'on pourrait formuler en ces termes. Le traitement des B par la loi A sera identique à celui des A, à condition que le traitement des A par la loi B soit identique à celui des B, et donc il se place en état de dépendance par rapport à l'autre législateur. Cela peut permettre de réaliser l'égalité, mais cela suppose des concessions. Et pourtant, le Code de 1804, tout au moins l'article 11 du Code civil actuel, prévoit une règle de ce type. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français, par la nation à laquelle cet étranger appartiendra. Condition de réciprocité qui est aussi une façon de ne pas donner plus que nécessaire. Toutefois, on peut très bien vouloir s'affranchir de la décision de l'autre législateur. Je, législateur A, peux très bien décider unilatéralement, indépendamment de ce que feront les autres, de traiter, par exemple, les B de la même manière que les A. Je peux éviter d'ailleurs de ne pas affirmer trop clairement cette assimilation aux nationaux pour des raisons de politique interne. Alors je choisirai un autre critère que celui de la nationalité, le domicile par exemple. C'est très à la mode le domicile par exemple pour le droit de vote, on le sait bien. Et d'ailleurs, le Code Napoléon avait déjà accordé des droits identiques aux étrangers à condition qu'ils aient obtenu le domicile en France. Il fallait l'obtenir. Ce texte a été abrogé, c'était l'ancien article 13. Il n'en reste pas moins que la condition de domicile est dans le droit moderne souvent le critère d'attribution d'un droit. En droit communautaire notamment, le critère du domicile ou même de la résidence est très fréquent. Ça s'explique par des raisons techniques. Par exemple, il est plus utile, plus intéressant de désigner le tribunal territorialement compétent le plus proche du domicile. Mais ça peut être aussi pour des raisons de stratégie politique afin de gommer un critère national que l'on n'a plus tellement envie de voir apparaître parce qu'il s'agit de construire une communauté indépendamment des nationalités. L'inconvénient d'une décision unilatérale réside dans le fait qu'elle ne va pas assurer l'égalité des A et des B dans les deux pays. L'État A peut très bien l'accorder, cette égalité, alors que l'État B ne va pas l'accorder. Il faudrait que l'on puisse obliger l'État B à le faire. Et pour ça, on va essayer de négocier avec lui. C'est la condition de réciprocité qui peut être négociée État par État, A avec B d'une part, A avec C d'autre part. Mais si vraiment on veut réaliser l'égalité, il faudrait que les trois États ABC s'entendent et décident, par exemple, d'appliquer une loi uniforme, la même pour tous les individus A, B, C, faisant abstraction complètement du critère de la nationalité. Des grands traités internationaux, à commencer par le traité de Rome, sont fondés sur ce principe. Nous le voyons, l'égalité en droit international est le fruit d'une négociation et parfois très difficile à obtenir. Il n'en va pas de même lorsque le législateur s'adresse à un individu qui a un pouvoir de décision mais qui est d'un rang inégal. S'il lui reconnaît un pouvoir de décision, il se reconnaît un pouvoir de contrainte. Et donc, il va l'obliger à respecter certaines contraintes égalitaires. L'acteur assujetti va donc subir des injonctions. Et pour en donner un exemple, j'ai choisi le chef d'entreprise, qui est un bon exemple, à mon avis, illustrant tous ces phénomènes. Je l'ai dit tout à l'heure, le législateur peut vous laisser le droit de préférer, par exemple, de préférer l'un de vos enfants en matière successorale. Mais il peut aussi interdire la préférence. Et dans ce cas, il va énoncer une liste de critères sur lesquels il est absolument interdit de se fonder pour prendre une décision discriminatoire. Il va donc imposer un minimum de similitude entre les individus, minimum qui constitue une sorte d'égalité essentielle entre les personnes physiques, du seul fait de leur appartenance au genre humain. Ce noyau dur de l'égalité, ces quelques qualités communes à tous les hommes, interdisent qu'on tienne compte de certaines différences, alors que dans le monde réel, elles existent. Il y a donc ici une sorte d'égalisation artificielle entre les individus, égalisation qui est opérée par la loi et qui va produire une certaine image de la réalité. C'est ce qu'on appelle l'égalité dans la loi, je l'ai dit tout à l'heure. Et en vertu de cette égalité dans la loi, les acteurs qui ont un pouvoir de décision ne pourront pas distinguer. Et pour reprendre l'exemple des triangles, tout se passe comme si le législateur posait un filtre sur la réalité pour empêcher l'acteur assujetti de voir des différences. Dans le schéma qui vous est proposé, j'ai des triangles au départ qui sont colorés. Le législateur pose un filtre qui empêche de voir la couleur. Et l'acteur qui va avoir à prendre des décisions sera dans l'incapacité d'utiliser le critère couleur pour prendre ses décisions. Il pourra agir sur la forme ou sur la forme des triangles, mais il ne pourra pas agir sur la couleur. C'est sur ce monde en gris, ici, que l'acteur va pouvoir opérer. On perçoit alors l'existence de deux transformations successives du monde. La première est le fait de la loi, je l'ai fait figurer par une flèche rouge, qui fournit aux acteurs assujettis un monde déjà passablement artificiel, dans lequel certaines différences vont être gommées. Et sur ce monde en gris, l'acteur assujetti est en principe libre d'opérer. Il le serait totalement s'il n'avait même pas à se justifier. On va voir qu'en droit du travail, en tout cas, ce n'est pas le cas. Pour en revenir pour l'instant à la généralité, la loi pénale, l'article 225.1 du Code pénal, interdit toute discrimination entre personnes physiques à raison d'un certain nombre de critères, notamment l'origine, le sexe, la situation de famille, l'état de santé, etc., etc. Il y a une liste close. Seules sont interdites expressément certaines discriminations. Et ici, cela révèle l'exercice d'un choix, d'une sélection de certains critères jugés essentiels sur lesquels il est interdit aux acteurs de se fonder pour prendre des décisions. On remarquera que la nationalité est un critère interdit aux acteurs, alors qu'elle est permise aux législateurs, ce qui est très révélateur de la hiérarchie qui est établie entre les deux. Cependant, le législateur n'est pas totalement libre parce qu'il a au-dessus de lui le juge européen et la Convention européenne des droits de l'homme, dont l'article 14 interdit lui aussi certaines discriminations pour la jouissance des droits reconnus par la Convention, donc c'est dans un domaine quand même assez limité. Toute discrimination est interdite si elle est fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. On remarquera qu'ici la liste est ouverte, toute autre situation. Ce qui est logique parce qu'ici, il n'y a pas de sanction pénale. Dans le code pénal, il faut énumérer une liste close parce qu'il y a un principe de légalité qui interdit évidemment qu'on vous punisse pour des choses qui n'étaient pas prévues par la loi. Une illustration particulièrement intéressante du principe de non-discrimination, c'est la politique de lutte contre les discriminations en droit du travail. Par exemple, la loi du 9 mai 2001 déjà évoquée, qui interdit de distinguer entre les hommes et les femmes quant à l'égalité professionnelle. La contrainte exercée sur l'entrepreneur est ici très forte et la jurisprudence l'a d'ailleurs largement renforcée. Un cas particulier qui mérite qu'on l'explore un peu, c'est l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Il y a 20 ans, le juge affirmait que l'employeur est libre de déterminer des rémunérations différentes pour chacun de ses salariés. On se trouvait, disait-on, dans un domaine où la liberté chasse l'égalité. De nos jours, le juge affirme que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans des situations identiques. Identité purement artificielle, bien entendu. Deux personnes qui seraient, par exemple, dans une situation exactement identique indépendamment de leur sexe, un homme et une femme, sont identiques pour la loi. Dans l'affaire qui a été jugée en 1996, dont j'ai extrait cette citation, il y avait une salariée qui prétendait qu'elle souffrait d'une différence de rémunération entre elle et d'autres personnes, d'autres femmes, qui étaient également salariées dans la même situation. L'employeur disait « Je n'ai pas à respecter cette égalité des rémunérations puisque la loi m'impose simplement l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, pas entre femmes. » Le juge a écarté cette argumentation fallacieuse. L'égalité des rémunérations entre hommes et femmes n'est jamais qu'une application d'une règle plus générale, à travail égal, salaire égal. On pourrait induire alors de ce principe une égalité plus générale, égalité de traitement de toutes les personnes dans l'entreprise. Cela va donc plus loin que la simple interdiction des discriminations visées par la loi. L'employeur n'est pas libre, il doit non seulement ne pas discriminer selon les caractères prévus par la loi, mais en plus il doit appliquer positivement un principe d'égalité. Et une loi du 6 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations a modifié le code du travail et a désormais une portée des plus générales. Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage, etc., ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération, formation et j'en passe, en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race, etc. etc. Cette prohibition-là pose le problème de la charge de la preuve, et j'en terminerai par là. Problème de la charge de la preuve. Qui doit prouver la discrimination? Est-ce que c'est au salarié de prouver qu'il a fait l'objet d'une discrimination? La présomption d'innocence le voudrait. Est-ce que c'est à l'employeur de démontrer qu'il n'a pas discriminé selon les principes interdits, selon les critères interdits? La Cour de cassation, déjà en 1987, si toujours elle affirmait la liberté de rémunération, avait quand même introduit la possibilité pour le juge d'exiger des justifications, notamment sur la compétence des salariés. La loi de décembre 2001 ne laisse plus aucun doute. En cas de litige, le salarié présente des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse, c'est-à-dire l'employeur, de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Sachons que le législateur belge s'apprête à faire de même, en fondant d'ailleurs l'obligation pour l'employeur d'avoir à prouver son innocence sur des tests statistiques qui me semblent tout à fait contestables, si j'en crois tout au moins l'article que j'ai lu dans un journal, mais c'est un journal grand public, donc il faut peut-être prendre des précautions, sans nullement mettre en cause l'honnêteté du journaliste, il faudrait aller voir la loi, qui consisterait à dire que s'il y a une proportion différente, par exemple, de femmes dans l'entreprise par rapport à la population globale, alors il y a un soupçon de discrimination. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez bien que l'employeur n'a pas le droit, bien sûr, un homme, une femme, ça se verra, mais il n'a pas le droit d'interroger les personnes sur leur religion. Alors, faudra-t-il qu'il le fasse pour respecter la proportion de musulmans ou de chrétiens ou de je ne sais encore dans la population globale? Faudra-t-il même qu'il aille jusqu'à s'interdire d'embaucher une personne pour respecter des quotas? Ce serait complètement absurde. Tout dépend ici de cette impatience devant la limite, cette exigence d'égalité qui est si forte de nos jours qu'elle refuserait toute discrimination. Un auteur a montré récemment l'impatience devant toute limite. On ressent comme illégitime toute inégalité de traitement. C'est vrai que de nos jours, beaucoup d'inégalités ont disparu. Qui songerait encore à distinguer aujourd'hui entre les citoyens actifs et les citoyens passifs, qui excluaient les paysans, les femmes du suffrage universel? Tous les citoyens étaient égaux, oui. Tous ceux qui pouvaient voter. On pouvait parler de suffrage universel. Tout dépend évidemment du domaine de référence auquel on rapporte le discours. Or, on observe incontestablement une extension de ces domaines de référence. Les limites reculent. il y a quand même des inégalités qui sont toujours admises. Et même le juge européen dit qu'il y aurait violation de l'article 14 de la Convention si une discrimination était faite, le principe de non-discrimination, le droit de jouir des droits garantis par la Convention sans être soumis à discrimination serait transgressé si un État sans justification objective et raisonnable n'applique pas un traitement différent à des personnes dont les situations sont sensiblement différentes. Autrement dit, à situation égale, on doit réserver un traitement égal, mais aussi à situation différente, il faut appliquer des traitements différents. C'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Et le législateur, poussé par la contrainte de l'opinion qui demande toujours plus d'égalité, va devoir aussi être tenu de ce devoir de distinguer et donc trouver un équilibre. Alors, jusqu'où le droit peut-il résister? Jusqu'où doit-il aller devant la demande d'égalité? Pour donner satisfaction aux groupes qui demandent de l'égalité, le législateur a multiplié les lois. Il essaye de s'en tirer tant bien que mal en essayant d'avoir une formulation qui se veut générale et abstraite parce que c'est cela qui donne l'autorité à la loi. Et parfois, il va avoir des formulations embarrassées. Il va dire, par exemple, prétendue race ou appartenance vraie ou supposée à une race. Il est bien embêté parce qu'il faut bien utiliser les mots du langage ordinaire pour faire disparaître les discriminations. Et pourtant, il lui faudrait garder cette majesté, cette autorité que lui confère l'abstraction. Portalis écrivait une phrase très belle. « L'office de la loi est de fixer par de grandes vues les maximes générales du droit, d'établir des principes féconds en conséquence et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. » C'est donc davantage plutôt sur la technique législative que je critiquerai le législateur, certainement pas dans les principes, car à bien y réfléchir, les lois de lutte contre les discriminations permettent d'extraire comme un négatif l'essence de la dignité humaine qui est au cœur de l'être, l'être humain général et abstrait, qui toujours en vaut un autre au regard du droit. Mais en même temps, parce qu'il est composé d'individus et que la loi ne saurait nier l'individualité sans méconnaître sa mission, qui est de servir l'homme dans toute sa richesse, le genre humain trouvera peut-être, je l'espère en tout cas, son épanouissement dans un cadre juridique qui aura su trouver l'équilibre entre la volonté politique d'égalisation et le respect de son irréductible liberté. Je vous remercie infiniment.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez penser, ce que j'ai vu il y a plusieurs années, du caractère homme ou femme dans la profession d'infirmière pour des mêmes malades? Il s'agissait d'un service de chirurgie tout à fait banal, où il y avait autant d'hommes que de femmes, et où j'étais envoyé par une société d'intérim, et les gens qui avaient demandé l'intérimaire avaient oublié de se faire préciser le sexe. Et en arrivant dans cette clinique, que je dirais, disons, dans le 16e, parce que j'en connais deux qui pratiquent cette politique. Et alors, bon, j'étais arrivé dans cette clinique, et quand on s'est aperçu que j'étais un homme, on ne m'avait pas déshabillé, mais enfin, ma tenue était suffisamment convaincante, on m'a dit, oh ben non, je regrette, c'est une femme qu'on voulait. Bon, alors, ce cas n'est pas exclusif, j'en ai vu deux, si ce n'est trois, dans ma carrière professionnelle. Alors, je voulais poser, à propos de cette égalité, ce que vous en pensez.
Ah, ce que j'en pense, moi, je n'ai pas à penser, mais je pense, bon, je peux vous le dire ce que je pense, je trouve que c'est complètement absurde, mais la loi interdit cette discrimination, qu'elle soit défavorable à l'homme ou qu'elle soit défavorable à la femme. L'employeur n'a pas, normalement, à distinguer entre les hommes et les femmes, sauf sauf si il arrive à démontrer, il se pourrait qu'il ait à démontrer, par exemple, que le sexe de l'individu soit spécialement adapté à certaines professions. Mais là, on ne voit pas le fait qu'un infirmier soit un homme ou une femme, ce que ça changerait. Normalement, il ne peut pas se fonder sur ce critère-là. Alors, le problème, c'est la preuve. C'est totalement injuste de refuser un homme. Il est aussi compétent qu'une femme, comme une sage-femme. D'ailleurs, on a eu du mal pour trouver un mot pour les sages-femmes, hein, pour les sages-hommes. Mais ils sont aussi compétents. On ne voit pas pourquoi le législateur se permettrait, l'employeur se permettrait d'exercer un choix fondé sur le sexe. On n'a pas le droit de le faire. Alors, je ne sais pas à quand remonte ce principe de non-discrimination en droit du travail. Hein, mais la Convention européenne des droits de l'homme, ça date quand même de 1950. Donc, seulement les justiciables pensent seulement maintenant à l'invoquer. Hein, c'est un phénomène assez récent. Jusqu'ici, il a fallu longtemps pour que devant le juge national, les avocats pensent à dire il y a la Convention européenne des droits de l'homme. Et justement, depuis qu'on l'invoque, alors on a un phénomène qui fait boule de neige, si vous voulez. Tout le monde pense aux articles 8, 14, notamment de la Convention.
Existe-t-il une définition légale de l'intérêt général ?
Ah, certainement pas. Le législateur va bien se garder de définir l'intérêt général. C'est une notion qui est souple et qui doit conserver sa souplesse, puisque justement, il va l'apprécier au cas par cas. Vous pensez bien qu'il ne va pas se lier les mains. Il est absolument hors de question pour le législateur de dire ce qu'est l'intérêt général. Il va changer d'intérêt général à chaque fois que l'opportunité pour lui se fera sentir de changer de définition. Il n'y a pas de définition de toute façon. Et d'ailleurs, comment pourrait-on définir l'intérêt général ? Ça serait l'intérêt général de quelle population ? Même si on voulait la définir abstraitement, hein, politiquement, bien sûr, il ne le fera pas. Mais même si on devait la définir politiquement, par exemple, l'intérêt général, quand on parle d'intérêt général, on dit que la loi pénale est faite, l'action publique, par exemple, est faite pour défendre l'intérêt général, c'est l'intérêt général de tous les Français qui seraient victimes d'infractions. Bon, mais il se peut très bien que ça soit un intérêt plus catégoriel. Alors, en principe, l'intérêt général, c'est l'intérêt de toutes les personnes dont le législateur va s'occuper, c'est-à-dire les Français, pour ce qui est du législateur français, mais il ne va pas dire où il est cet intérêt, bien entendu. Donc, on n'est pas plus avancé.
Excusez-moi, ce n'est pas une question, mais j'ai été très heureuse que vous terminiez votre conférence par le mot « liberté », parce qu'on parle beaucoup d'égalité, mais j'ai l'impression, alors je pose ma question, qu'on parle moins de liberté de l'individu.
Il faudra demander aux organisateurs de faire des conférences sur la liberté. C'est vrai qu'on fait beaucoup de discours sur l'égalité. D'ailleurs, actuellement, dans le discours politique, si vous l'observez dans le discours des candidats, on utilise beaucoup l'argument d'inégalité. On explique notamment que certains actes de délinquance, certains actes de terrorisme sont le fruit du sentiment d'inégalité ressenti par certaines personnes. Ce qui peut d'ailleurs être tout à fait exact. Mais il faut évidemment composer les deux. C'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas envisager une égalité au sens d'égalisation sans dommage pour la liberté. Il serait totalement... Et d'ailleurs, le législateur ne le fait pas. Il sait bien qu'il ne peut pas le faire. Il doit trouver ce juste milieu qui est toujours très difficile à trouver entre un souci d'égalité minimale et puis aussi un souci de liberté. Si je peux me permettre de prendre une comparaison... Avec les animaux, j'ai eu récemment à faire une conférence sur la notion de distance. Pour qu'un groupe animal reste cohérent, qu'il ait une suffisante cohésion, par exemple des manchots empereurs, par exemple, ces animaux vont se tenir à une certaine distance les uns des autres. Donc, il va y avoir un certain degré de contrainte. Mais en même temps, un certain degré de contrainte parce qu'ils vont respecter une distance maximale au-delà de laquelle le groupe éclaterait. Un banc de poissons, par exemple, les poissons se tiennent les uns à côté des autres, pas trop loin, sinon il n'y a plus de banc de poissons. Donc il y a une notion de groupe qui impose une certaine contrainte de distance maximale à tenir. Mais en même temps, il faut réserver un espace de liberté. Et si je peux me permettre un exemple tout bête, des vaches dans un pré se tiennent à distance d'un coup de corne du voisin. Oui, il leur faut leur petit espace de liberté. Et dans la nature, on observe ces comportements-là, donc entre contrainte pour le groupe social, minimum de cohésion, mais aussi liberté de l'individu. Et tout naturellement, le phénomène se reproduit dans la règle juridique qui trouve cet équilibre, qui cherche cet équilibre, même si ce n'est pas dans le discours. J'espère avoir répondu à votre question,
bien,
encore avec des images.
Nous allons nous en tenir là et nous vous remercions, Madame Isorch.